Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 26 juin 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Saïd Hassan Nasrallah dénonce une agression médiatique US contre la résistance. Deuxième attaque au drone contre le sud saoudien en moins de 6 heures. En France, une fusillade a fait un mort et un blessé à Marseille. Et au Mali, 6 soldats maliens ont été tués et un autre blessé lors d'une attaque dans le centre du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré que les États-Unis avaient bloqué sous de faux prétextes des sites Internet appartenant à l'Iran et à l'axe de la résistance. Au début de son discours, le secrétaire général du Hezbollah libanais a évoqué la récente décision du ministère américain de la Justice de bloquer les sites web appartenant à l'Iran et à la résistance. Cela a une fois de plus révélé le caractère mensonger de toutes les allégations faites par divers gouvernements de Washington en soutien à la liberté d'expression. Les sites Internet de l'axe de la résistance ont été bloqués par les États-Unis parce qu'ils ont toujours pris des positions anti-sionistes et crié leur opposition aux actions agressives de Tel Aviv dans la région et dans le monde. Ces sites web se sont toujours opposés aux tentatives des États-Unis visant à étendre leur hégémonie dans la région et semer la discorde entre les nations de la région, a souligné Nasrallah. On voit aussi au Liban que les États-Unis cherchent la division. Les Américains utilisent également les médias au Liban pour faire avancer leurs objectifs. À travers les médias, ils incitent les Libanais à s'affronter. Les tentatives américaines de semer la zizanie et la division parmi les Libanais sont tout à fait évidentes pour nous, a-t-il souligné. Les Américains tentent de semer la discorde entre les Libanais dans les médias et en même temps, dans un geste étrange, ils bloquent les sites d'information de la résistance. Ces sites n'ont pas été indifférents aux enjeux et ont pris position sur les questions de sédition et autres, a-t-il souligné. Selon le leader du Hezbollah, les allégations des États-Unis concernant les droits de l'homme et la liberté d'expression n'en sont que de purs mensonges. En même temps, on constate que les médias des régimes dictatoriaux et même des groupes terroristes ne sont pas visés par les États-Unis, a précisé le secrétaire général du Hezbollah libanais. La République islamique d'Iran n'a jamais quitté le plan global d'action conjoint pour y revenir, mais ce sont les États-Unis qui doivent prendre leur décision de revenir à cet accord avec la levée des sanctions illégales et la mise en œuvre pratique de leurs engagements définitifs, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. réagissant aux positions annoncées par les ministres des Affaires étrangères de la France et des États-Unis sur le fait qu'ils attendent la décision de l'Iran afin de revenir au plan global d'action conjoint. Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a précisé que l'Iran n'a jamais quitté cet accord pour y revenir. Lors des négociations à Vienne, nous avons répété à plusieurs reprises que ce sont les États-Unis qui ont troublé l'équilibre du plan global d'action conjoint et, dans un non-respect total, ont pratiquement bloqué la mise en œuvre de cet accord. Il a été souligné à plusieurs reprises que la République islamique d'Iran est tout à fait prête à suspendre les mesures compensatoires et à reprendre l'exécution de ses obligations au titre du plan global d'action conjoint, à condition que les États-Unis les appliquent pleinement et les autres parties sont bien conscientes de la position de l'Iran. Il est évident qu'un accord sera possible si les États-Unis prennent leur décision à mettre pleinement en œuvre leurs engagements et à renoncer à utiliser les sanctions comme levier aux négociations, a indiqué M. Khatibzadeh concluant. Notre position n'a pas changé depuis le début des négociations. Nous exigeons la levée des sanctions américaines. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a fait part d'une nouvelle frappe de drone vendredi 25 juin sur la base aérienne de King Khalid à Khamis Mushayt dans le sud de l'Arabie saoudite. Une attaque précise a été menée sur la base aérienne de King Khalid à Khamis Mushayt avec le drone RASEF K2, a-t-il annoncé. Il a également ajouté que l'attaque était très précise et qu'elle avait été menée dans le cadre d'une réaction légitime à l'intensification des attaques et à la poursuite du blocus contre le Yémen. Rappelez également que, plus tôt ce jeudi, l'armée de l'air yéménite a déchaîné un essaim de drones sur un camp d'entraînement situé dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Des dizaines de mercenaires dirigés par les Saoudiens et les officiers de l'armée saoudienne ont été tués ou blessés dans cette frappe aérienne. Khamis Mushayt est la base où Riyad stationne ses F-15, avions régulièrement visés ou brouillés par les drones d'Ansarallah du Yémen. En Syrie, un homme est tombé en martyr vendredi 25 juin et ses deux enfants ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif qu'on avait mis dans sa voiture dans le village de Rarras, dans la banlieue sud de Kuneitra. Le correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, a fait savoir que le conducteur de la voiture était tombé en martyr dans l'explosion de l'engin explosif et que ses deux enfants ont été blessés. Ils ont été hospitalisés dans l'hôpital du martyr Mamdou Abaza dans la ville de Baas. Une source médicale de l'hôpital a déclaré au correspondant de Sana que les deux enfants blessés âgés de 3 et 15 ans sont dans un état stable après avoir reçu le traitement nécessaire. Sur le sol syrien, les forces d'occupation américaines poursuivent le renforcement de leurs bases dans les régions qu'elles occupent dans la région syrienne d'Azira en faisant entrer vendredi depuis l'Irak un convoi de véhicules chargés du matériel logistique et des armes lourdes. Des sources locales de la banlieue de Tel Amis ont fait savoir qu'un convoi composé de 30 véhicules, dont des camions frigorifiques et des semi-remorques, et qui transportaient à bord de nouveaux blindés militaires, était entré en Syrie depuis l'Irak et s'était dirigé vers les bases des forces d'occupation américaines dans la banlieue de Asaka. Vendredi, lors d'une téléconférence, le sous-secrétaire d'État adjoint américain par intérim aux affaires du Moyen-Orient, Jay Hood, a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de maintenir leur présence militaire dans le nord-est de la Syrie. Il a déclaré que Washington était déterminé à maintenir des troupes en Syrie afin de faire face aux terroristes Daesh et de soutenir ses alliés, les forces démocratiques syriennes FTS, dirigées par les Kurdes, contre le gouvernement de Damas, comme l'a prétendu le responsable américain. Les États-Unis voient une opportunité de travailler en partenariat avec la Russie pour fournir une aide humanitaire transfrontalière aux réfugiés en Syrie, a allégué Joy Hout. On dit qu'il y a actuellement au moins 900 soldats américains en Syrie, à la fois dans l'enclave méridionale d'Al-Tanf et dans le nord-est où se trouvent les puits de pétrole. Riches en ressources pétrolières et énergétiques, la plupart des secteurs des provinces d'Asaké, des Rezors et Raqqa sont situés dans le nord et le nord-est de la Syrie et sont sous l'emprise des FTS, appuyés par les États-Unis. Les responsables syriens ont accusé les États-Unis d'essayer de faire passer en contrebande et de vendre du pétrole syrien à l'étranger, ce qui est, selon eux, en violation flagrante du droit international. En France, un homme a été tué et un autre blessé par balle lors d'une fusillade survenue vendredi soir aux abords d'un stade à Marseille, dans le sud du pays, selon des médias locaux. Une voiture est arrivée aux abords du stade Lamartine, dans le 15e arrondissement de Marseille, et ses occupants ont tiré sur deux joueurs de football qui participaient à un tournoi interquartier, selon BFM TV, citant une source policière. La police judiciaire a été chargée de l'enquête, selon la même source. 6 soldats maliens ont été tués et un autre blessé vendredi lors d'une attaque dans le centre du Mali. Plutôt, 15 casques bleus de l'ONU déployés au Mali ont été blessés dans une attaque au véhicule piégé contre une base opérationnelle temporaire dans la région de Gao, dans le nord du pays, a rapporté la MINUSMA. Le Mali a connu vendredi 25 juin une nouvelle journée sanglante avec deux attaques, l'une contre un poste militaire dans le centre et l'autre contre une position temporaire de l'ONU au nord. L'attaque d'un poste militaire dans le village de Boni a fait 6 morts parmi des soldats et un blessé. 10 soldats maliens avaient déjà été tués en février dans ce même village. Les troupes ont vigoureusement repoussé des attaques simultanées menées dans ce village vendredi après-midi, ont précisé les forces armées maliennes sur leur page Facebook. Plus tôt dans la journée, 15 casques bleus de l'ONU au Mali ont été blessés dans une attaque au véhicule piégé contre une position temporaire dans le nord, a indiqué la mission des Nations Unies dans le pays sur les réseaux sociaux. Ce vendredi matin, une base opérationnelle temporaire de la force de la MINUSMA près du village d'Ishagara, dans la commune de Tarkint, région de Gao, a été la cible d'une attaque au véhicule piégé, a-t-elle rapporté sur Twitter. Les Nations Unies ont prévenu vendredi 25 juin que l'escalade de la violence le long des frontières du Niger avec le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria menace la santé et la sécurité d'une population civile durement touchée. L'insécurité a contraint à des déplacements plus de 537 000 personnes à travers le pays, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Elle a également affecté l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment l'éducation et les soins de santé, a-t-il déploré. Jeudi, un raid mené par des acteurs non étatiques a tué au moins 18 personnes et en a blessé plusieurs autres dans le village de Dagazameni, a indiqué le bureau. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, résistance. Le rach sonnera encore. Le Hamas connaît des moyens pour forcer Israël à se soumettre à ses exigences. Les déclarations faites par le dirigeant du mouvement Hamas, Yahya Sinwar, le lundi 21 juin, après sa rencontre avec le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, ont suscité l'inquiétude des observateurs de la question palestinienne. Et pour cause, Sinwar a décrit les résultats de la réunion comme étant mauvais et qu'il a mis en garde Israël contre la poursuite du siège de l'enclave palestinienne. Dimanche dernier, une source palestinienne bien informée a révélé que la direction de la résistance palestinienne a décidé de donner aux efforts arabes et internationaux l'occasion de faire des progrès dans la question du siège imposé à Gaza et de mettre fin aux souffrances de ses habitants. Les analystes politiques sont unanimement d'accord pour dire que le Hamas est déterminé à briser le siège imposé par Israël à la bande de Gaza depuis l'été 2007 en utilisant diverses méthodes si les médiateurs n'y parviennent pas. En allusion au délai fixé par les groupes de résistance pour que les médiateurs exercent une pression sur le régime sioniste, le site web palestinien Palestine Al-Yaoum a écrit. Les groupes palestiniens basés à Gaza ont donné aux médiateurs une autre chance de faire pression sur les occupants pour accélérer la reconstruction de Gaza et lever le blocus lors d'une réunion mardi dernier portant sur les dernières évolutions dans l'enclave palestinienne. Les groupes palestiniens ont également tiré la sonnette d'alarme quant aux politiques d'Israël qui tue le temps sur les affaires liées à Gaza. Ils ont souligné qu'ils ne resteraient pas les bras croisés et qu'ils disposent de diverses options pour forcer le régime sioniste à se soumettre aux exigences de la résistance. À la suite de l'opération Épée de Rots, les militaires israéliens ont intensifié le blocus à Gaza. Ils ont fermé les points de passage, bloqué l'acheminement des produits de première nécessité à Gaza et interdit l'accès à la mer aux Gazaouis, ce qui a aggravé la situation. L'écrivain et analyste politique palestinien Mustafa Al-Sawaf n'exclut pas le déclenchement d'une nouvelle escalade militaire au cas où les médiateurs ne parviendraient pas à un règlement acceptable pour les groupes palestiniens. Mais il estime que les données actuelles dans la bande de Gaza indiquent que la résistance est déterminée à réaliser ce qu'elle désire. Il a ajouté que la résistance a donné aux médiateurs l'occasion de jouer leur rôle, mais il semble qu'ils n'aient rien fait, ce qui nous place devant des scénarios dont l'un pourrait bien être une escalade militaire. Les déclarations de Sinwar confirment que l'envoyé de l'ONU est venu avec les conditions de l'occupant qui tente de lier le dossier de la reconstruction de Gaza au dossier des prisonniers israéliens détenus par la résistance. Donc, je pense que l'envoyé de l'ONU est parti sans aucune avancée sur ce dossier, a-t-il dit. Et il a indiqué que l'option de revenir à des moyens face à l'occupation, tels que des ballons incendiaires et autres, était toujours fortement présente et que toute réponse militaire israélienne à ces moyens populaires serait ripostée par la résistance.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Les États-Unis se sont livrés à un nouvel acte de provocation, voire de confrontation contre l'axe de la résistance. Le département américain de la justice a bloqué une trentaine de sites web iraniens et régionaux, dont Press TV, sous des prétextes illusoires comme la désinformation. En effet, selon de nombreux analystes, après l'échec des États-Unis et de leurs alliés, plutôt du tandem américano-israélien, contre l'axe de la résistance sur le plan politique et surtout militaire, désormais, alors ce tandem, en effet, s'est engagé sur un nouveau front, le front médiatique, en tentant d'étouffer en effet la voix de la vérité par leur tentative de blocage de ces sites proches de l'axe de la résistance. Bien sûr, désormais, Press TV sera accessible dans le domaine IR, mais la grande question qui mérite réflexion, c'est la principale raison, en effet, de cette tentative américaine au moment où l'opinion publique mondiale porte une attention toute particulière, en effet, sur la vérité, cette vérité de l'axe de la résistance, notamment les événements au Yémen, en Syrie et surtout, tout récemment, en Palestine. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher, analysant en effet les principales raisons de cette tentative du tandem américano-israélien, le blocage des médias de la résistance. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Depuis mardi dans la nuit et en contradiction flagrante avec la liberté de presse, l'administration américaine a bloqué des sites web proches de l'axe de la résistance, y compris Al-Alam, Press TV, Al-Masira, Al-Maluma, et la liste continue à s'allonger. Il est désormais clair que la liberté de véhiculer un message autre que celui que véhiculent les médias mainstream fait peur au plus haut point au sionisme international qui a bâti tout un empire médiatique, fait de mensonges, de falsifications et de défigurations de la réalité. Les visiteurs des trois domaines ont été accueillis mardi par un avis indiquant qu'ils avaient été saisis en vertu des lois américaines qui autorisent la confiscation civile et pénale des biens impliqués dans le trafic de technologies ou de matériel d'armes nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques, ou la fabrication, l'importation, la vente ou la distribution d'une substance contrôlée. Évidemment, cette bataille pour la vérité ne s'arrêtera pas avec cette mesure sans précédent qui prouve de la manière la plus claire qui soit la fin d'une époque, celle marquée par une opinion internationale qui prenait les racontars de France 24, d'AFP, de RFI, de CNN, de BBC pour l'argent comptant. Même en Israël, les colons font plus confiance à Al-Manar et à la Haït qu'à Mariv et Jérusalem Post. Sinon, comment expliquer cette mesure parfaitement hostile à la liberté d'expression dont prétend être chantre inégalé le mainstream? Ceci étant, la média résistance se poursuit de plus belle.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas, et Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à Maître Develay à Damas et bonjour à vos téléspectateurs.
Dans quel contexte, dans quel cadre, Monsieur Michel, replacez-vous cette tentative de blocage des médias de la résistance par les États-Unis au moment où, justement, alors, les États-Unis et en général les pays occidentaux s'opposent, en quelque sorte, en défenseur de la liberté de presse le considérant en effet comme le pilier de leur prétendue démocratie?
Nous sommes entrés dans la guerre froide 3.0 contre l'axe Moscou-Pékin-Téhéran. Et là, au centre de cette guerre, il y a la guerre de l'information, la guerre médiatique. Actuellement, on constate depuis quelques mois à une offensive généralisée contre tous les médias alternatifs. Pas seulement le groupe des médias pro-iraniens, mais depuis plusieurs mois contre les médias pro-russes qui soutiennent l'action de la Russie en Afrique. Il y a une campagne actuellement de RFI, de CNN, des réseaux de George Soros, contre par exemple la télévision panafricaine Afrique Média, contre mon groupe multimédia et directement contre moi-même. Il faut souligner que tout cela, ça fait suite malheureusement à 30 années de guerre médiatique où la presse, qui n'est pas la presse mainstream, est prise comme une cible militaire. Tout avait commencé en 1999 dans la dernière phase de la guerre de Yougoslavie, lorsque l'OTAN et les États-Unis étaient venus bombarder Belgrade. Ils avaient été directement bombardés la tour de la radio-télévision serbe à Novi Sad. C'est un crime de guerre suivant les lois internationales. On a continué aujourd'hui. Au lendemain où les États-Unis ont essayé de réduire au silence tous les médias pro-iraniens, il y a une hypocrisie tragique. Ce matin, Joe Biden a publié un communiqué. Vous savez que le journal Global Times a cessé de paraître ce jour à Hong Kong. C'est le principal journal pro-américain et anti-chinois. Et Joe Biden, au lendemain de la fermeture des médias iraniens, a le culot de parler de liberté d'expression, d'agresser le gouvernement chinois, de parler de liberté de l'information, de liberté de l'information et à l'Internet pour tout. C'est une farce tragique, c'est une hypocrisie tragique. Ils ne nous feront pas taire.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Michel. On va tout de suite rejoindre Damas, Maître Develay. Maître Develay, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à M. Michel.
Qu'est-ce qui fait peur au tandem américano-israélien au point qu'il a décidé en effet de bloquer les médias de la résistance, contrairement aux lois internationales, contrairement à la liberté de presse? Et justement, au moment où les États-Unis, comme vous le savez très bien, alors possèdent un millier de bases militaires à travers le monde, pourquoi cette voie de la justice, cette voie de la résistance fait peur aux États-Unis à un tel point, au point où justement ils ont arrivé à cette conclusion que l'unique voie serait de bloquer cette voie de la vérité et de la justice?
Mais écoutez, je pense que M. Michel l'a parfaitement résumé. Il s'agit avant tout d'une guerre froide 3.0. Combiné, j'ajouterais, à ce qu'on appelle depuis quelques années la guerre hybride à tout craint. Et dans ce contexte, les médias d'information de la résistance font un travail visiblement très efficace, puisque les Américains en ont été réduits à passer une mesure qui, je pense, à long terme, aura des conséquences terribles, parce que, si je puis dire, le roi est nu. Et que dans un contexte où ils prétendent réengager la République islamique d'Iran dans un contexte où il s'agirait de rejoindre potentiellement l'accord sur le nucléaire, ça n'a absolument aucun sens. Dans ce contexte, on peut se poser, alors, il y a deux perspectives. La première, c'est que c'est vraiment le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, en toute indépendance politique, qui a pris cette décision sans en faire part nécessairement ou sans être influencé par l'État sioniste, auquel cas c'est une bourde monumentale. Ou alors on s'inscrit plus dans un contexte où, eu égard à la sensibilité des actions dans la région, de la résistance, les cercles sionistes à Washington, lesquels n'ont jamais caché leur désir de faire tout ce qui serait en leur pouvoir pour empêcher une forme de détente ou d'apaisement, en tout cas entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, ont pu être sous-traités pour effectuer ce genre d'opération. Toujours est-il que, nonobstant, indépendamment de la manière dont ils sont habillés cette action de provocation de manière juridique, visiblement, il s'agit avant tout de faire taire les médias de la résistance. Et en cela, Luc Michel faisait référence, si on remonte à la guerre de Yougoslavie, au bombardement d'une antenne de télévision à Belgrade, mais encore plus récemment, durant l'opération de l'épée de Hoth, l'une des principales cibles a été les bureaux de Al Jazeera, où, soi-disant, des membres de la résistance avaient édit domicile. Donc, on est un peu dans la continuité de cette opération. J'ajouterai à cela que, en mars dernier, le centre de réflexion, le think tank, appelé le Washington Institute for Near East Policy, qui est un think tank extrêmement marqué par son sionisme, avait publié un papier qui appelait justement les États, donc les États-Unis d'Amérique, puisque avant tout les grands consommateurs de ces articles sont le gouvernement fédéral, à prendre action contre les médias de la résistance, justement en les considérant comme des instrumentalités d'État ou d'entités qui pratiqueraient le terrorisme tel que l'axe américano-sioniste le perçoit. Mais ne nous y trompons pas, ce sont avant tout des médias qui sont associés à la résistance, ce que eux appellent les milices pro-iraniennes, et dans ce contexte-là, c'est un aveu que c'est vraiment l'Iran et ses alliés qui ont créé, si je puis dire, renversé la table dans la région. Et cette attaque simultanée sur pas moins de 33 sites de la résistance le souligne avec force.
Merci, Maître Develay. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, selon certains analystes, en effet, cette action aveugle des États-Unis découlerait de leur échec, de l'échec de leur politique de sanctions et de pression. Le département américain de la justice a invoqué la désinformation comme principale raison du blocage des médias de la résistance. Qu'est-ce que les États-Unis entendent précisément par là? Est-ce que, contrairement à ce que justement prétendent les États-Unis, les responsables américains, ce n'est pas une façon d'anticiper les choses, ce coup médiatique, pour fourvoyer en effet l'opinion publique mondiale en ce qui concerne justement l'échec des politiques américaines, non seulement vis-à-vis de l'Iran, mais sur le plan régional aussi?
Mais je vais élargir votre question parce que le problème n'est pas uniquement un problème régional. Elle concerne pas seulement l'Iran, il concerne la géopolitique internationale. Tout d'abord, rappelons que la politique des États-Unis et de leurs alliés français, c'est une attaque contre la liberté d'expression. À Gaza, on a frappé Al Jazeera, le Qatar étant l'allié principal de la France, et on a frappé les locaux de la société de presse. Donc, être journaliste maintenant dans un média pro-occidental ne vous protège plus. La deuxième chose qu'il faut constater, c'est que la guerre médiatique dans la guerre froide 3.0, elle se caractérise par la constitution, l'opposition de deux blocs. Un bloc américano-occidental, un bloc de l'Est avec ses alliés africains. Jusque maintenant, il y avait une domination absolue des médias occidentaux. Je rappellerai, par exemple, la domination absolue pendant les guerres, l'invasion de l'Irak ou l'invasion de l'Afghanistan ou les débuts du printemps arabe. En 2011, j'ai organisé en avril, sous les bombes de l'OTAN à Tripoli, la seule conférence internationale de soutien à Kadhafi. C'était le début de Facebook. Nous étions à 500 000 d'Européens à soutenir jamais, il n'a jamais réalisé avec Kadhafi. Et nous avons fait cette conférence. Nous étions dans le même hôtel que tous les grands médias occidentaux, dont CNN, France 24, RFI, etc. Nous n'avons pas eu un écho, pas une minute d'antenne, alors que tous ces gens étaient venus pour des raisons de renseignement, de répression, étaient venus longuement nous filmer. Les choses ont commencé à changer à partir de la Crimée. Aujourd'hui, nous devons constater qu'à la parité stratégique et militaire entre le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Iran, la Russie et la Chine, et le bloc américain, ça correspond à une parité stratégique des médias. Aujourd'hui, il y a une internationale des médias alternatifs. Ça ne concerne pas seulement Presse TV et les médias pro-iraniens qui défendent la juste cause en Palestine, au Liban, au Yémen, en Irak, en Syrie ou au Liban. Il y a également en Afrique une série de médias panafricanistes, en particulier la grande télévision Afrique Média. Pour que vous compreniez ce qu'est Afrique Média, qui est une télévision panafricaine, nous sommes sous le feu continu des attaques de la France et des États-Unis depuis des années, mais en particulier depuis quelques semaines. Macron lui-même et Jean-Yves Le Drian sont montés au créneau pour nous dénoncer comme des médias de désinformation. La désinformation, comme la désinformation soi-disant de Presse TV, c'est les idées qui ne plaisent pas aux États-Unis. C'est la lutte contre la dictature de la pensée unique occidentale. Pour comprendre ce qui se passe, il y a également TV et Radio Sûr, bien entendu, au Venezuela. Il y a également, en Europe même occidentale, mon groupe multimédia. Il y a les médias russes du groupe Russia Sedovnia, le château des Sputniks, etc. Toute cette internationale, elle se soutient et elle combat victorieusement la désinformation. En Afrique, par exemple, Afrique Média, il y a un audit du Quai d'Orsay, c'est 120 millions de téléspectateurs. France 24, toutes chaînes confondues, toutes plantes confondues, c'est 60 millions. Dans plusieurs pays, régulièrement depuis de nombreux mois, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Tchad, au Mali, et surtout en Centrafrique, nous dominons mécaniquement les médias occidentaux. C'est en train de rendre fou le State Department et le Quai d'Orsay. C'est cela qu'il faut constater. Hier soir, j'ai reçu 10 minutes d'antenne dans une grande émission tout publique sur Afrique Média. Nous avons exprimé notre solidarité avec Presse TV. Il faut constater que le temps où l'on étouffait la voix des peuples en ligne, c'est terminé. Les États-Unis et la France l'ont compris. Ils peuvent empêter, ils peuvent être grossiers. Vous savez que le président Macron n'a pas hésité à prendre son téléphone et insulter au téléphone le président de Centrafrique pour une troisième fois. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche que dans son pays, les médias pro-russes, ou par exemple ma web TV Centrafrica News TV qui est en pointe du combat, nous pouvons nous exprimer et nous dominons largement les médias pro-occidentaux. Il y a eu des manifestations dans les rues de Bondy pour le départ et l'expulsion de RFI. C'est cela qui se passe. C'est fini la domination occidentale. Au milieu de tout cela, au Proche-Orient, mais pas seulement au Proche-Orient, également dans les métropoles occidentales comme Paris, Berlin ou Bruxelles, Presse TV et ses chaînes alliées tiennent le rang du juste combat.
Merci encore, M. Michel. Maître de Velay, M. Michel l'a rappelé aujourd'hui, l'ère de la domination des médias mainstream, des médias à la solde des pays occidentaux, et en l'occurrence la France et surtout les États-Unis, est bel et bien révolue. Donc là, les choses ont changé, les rapports de force. On est entré dans une nouvelle ère. Donc cette parité stratégique des médias, justement, dont parlait M. Michel. Alors la question qui s'oppose justement avec cette tentative hostile et contraire à la liberté de presse des pays occidentaux, des États-Unis et de leurs alliés. À quoi il faudrait s'attendre justement dans le domaine, dans ce contexte de la guerre d'information et de guerre médiatique?
Écoutez, je pense que nous sommes en présence d'un bloc occidental qui est victime de ses contradictions internes. Déjà eu égard au fait qu'il a toujours mis en avant la liberté d'expression au travers de la liberté de la presse, du presse indépendante. Or, il s'avère que depuis 20-25 ans, il y a eu une concentration entre des mains toujours plus, limitées, des moyens d'information et donc de la perception des événements et d'époque vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur interaction avec d'autres concepts qui ne sont pas forcément au cœur de la narrative occidentale. Avec l'avènement d'Internet, les médias mainstream se sont retrouvés, si je puis dire, doublés sur leur droite, sur leur gauche, c'est selon. Mais toujours est-il qu'une nouvelle narrative organique et dialectique a pu commencer à voir le jour. Ce qui fait que maintenant, on arrive à une situation où les occidentaux, enfin les médias occidentaux, les oligarchies occidentales ont certes acquis un pouvoir considérable, si ce n'est hégémonique, sur l'information au sens où elle est diffusée par des gros groupes. Mais en même temps, on peut s'apercevoir, ne serait-ce qu'en France, où un média comme Libération, par exemple, qui a été racheté par un oligarque israélien, lui-même maintenant a recours à un ancien du Mossad pour agir en tant que directeur de la rédaction. Donc on assiste plus ou moins à une militarisation des médias occidentaux où des anciens, des vétérans, si je puis dire, des opérations militaires médiatiques sont maintenant directement, et ce n'est même pas un secret, nommés au poste de chef de rédaction. Donc il n'y a plus de médias indépendants en Occident. Les médias ont été complètement militarisés, ce qui est assez ironique dans le sens où, si on remonte à la guerre du Vietnam, justement, le Pentagone avait soi-disant pris en compte les leçons du Vietnam avec les cercueils qui revenaient tous les soirs, qui étaient à l'époque couverts par une presse indépendante. Ils avaient décidé, lors de la première, la deuxième guerre du Golfe, celle de 90-91, d'intégrer directement les reporters et autres journalistes au sein des forces armées, afin de limiter justement ces images. Et on arrive à un point maintenant où encore, il y a 48 heures, lors de l'incident en mer Noire, on apprend qu'un journaliste de la BBC était présent sur le destroyer britannique, le Defender. Quelles sont les coïncidences étatiques et statistiques que cela puisse être le cas, je vous laisse décider. Mais en tout cas, tout cela participe effectivement à une militarisation maintenant qui n'est même pas couverte ou dissimulée des médias occidentaux pour devenir littéralement un bras des forces armées.
Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique depuis Damas, Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Je vous rappelle encore... Au revoir. Je vous rappelle encore une fois que Presse TV sera désormais accessible dans le domaine IR. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le président élu iranien Ebrahim Raisi a tenu ce lundi 21 juin sa première conférence de presse à Téhéran après avoir emporté une victoire écrasante à l'élection présidentielle iranienne vendredi. Dans son allocution d'ouverture, le président élu Ebrahim Raisi a affirmé que la nation iranienne avait transmis ses messages au monde entier à travers le scrutin présidentiel, notant que l'un des messages était l'unité et la cohérence nationale. Il a affirmé que la campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran a échoué à mettre à genoux le peuple iranien. Le président élu a affirmé que l'approche de négociation pour négociation n'aurait aucune place dans son gouvernement. « Nous ne permettrons pas que les négociations deviennent érosives. Tout sens de négociation doit aboutir à un résultat acquis en faveur de la grande nation iranienne », a-t-il indiqué. En réponse à une question de la chaîne NBS News, Raisi a affirmé que les États-Unis doivent lever toutes les sanctions imposées au peuple iranien. Nous l'avons déjà réitéré à plusieurs reprises, cette levée des sanctions et vérification. La question qui s'impose consiste à savoir pourquoi ils manquent à leurs engagements alors que le gouvernement iranien a rempli les siens. Les États-Unis vont devoir s'expliquer pour ces manquements, a-t-il précisé. En réponse à la question d'un journaliste d'Euronews, Raisi a affirmé que ce sont les États-Unis et les pays européens qui doivent s'expliquer sur la façon dont ils ont mis en œuvre le plan global d'action conjoint. Les États-Unis ont violé le PGAC et les Européens, quant à eux, n'ont pas respecté leurs engagements. Selon les termes de l'accord, les Américains devaient lever toutes les sanctions, ce qui n'a pas été le cas. Ma recommandation à l'adresse des États-Unis, c'est qu'ils reviennent à leurs engagements et aux Européens qu'ils ne se laissent pas influencer par les pressions américaines et remplissent leurs engagements. Respectez vos engagements. Ceci est la revendication du peuple iranien. Du gouvernement élu populaire, le peuple s'attend à ce qu'il agisse pour restaurer ses droits. Et c'est ce que nous ferons, a-t-il souligné encore. Le président élu iranien a souligné que les États-Unis doivent lever toutes les sanctions de manière vérifiable afin que Téhéran puisse revenir sur les mesures nucléaires prises en réponse au retrait américain de l'accord nucléaire de 2015. À la tribune de la 9e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, l'adjoint opérationnel de l'état-major des forces armées iraniennes, le général Mahdi Rabbani, a exprimé l'approche de la République islamique d'Iran envers les évolutions régionales et internationales. Le haut cadre militaire iranien a affirmé que le groupe terroriste Takfiris Daesh est un produit des visions profiteuses et de la commercialisation de la sécurité prônée ces dernières années par des puissances hégémoniques. Beaucoup de facteurs ayant mené à la déstabilisation et à l'émergence des pensées extrémistes ces dernières années continuent à l'heure actuelle de faire obstacle aux efforts de sécurisation et de reconstruction des pays touchés par la crise, a affirmé le général Rabbani, et d'ajouter « Le moment est venu pour que les troupes extra-régionales, surtout les forces américaines, dont les mains sont entachées du sang des innocents tels que le général Soleimani, brave combattant de la lutte contre le terrorisme, quitte la région de l'Asie de l'Ouest afin que les pays de la région puissent parvenir par eux-mêmes à une sécurité durable. » Le Hezbollah a réagi au blocage de 33 sites médiatiques de la résistance par les États-Unis. Le responsable du bureau des relations médiatiques du Hezbollah, Mohammad Afif, a fermement condamné le crime commis par l'administration américaine contre un grand nombre de sites médiatiques libres. Une démarche qui confirme la politique de répression des libertés menée par Washington sous de faux slogans, selon lui. L'administration américaine a voulu, par le blocage de ces sites, dissimuler la diffusion de la vérité sur les crimes et les atrocités commis par les États-Unis et leurs alliés à l'encontre des peuples opprimés dans notre région, notamment en Palestine et au Yémen, où ils sont soumis aux pires formes d'abus et de blocus, a expliqué M. Afif. Au moment où nous exprimons notre solidarité soutenant cet site honorable, qu'aucun pouvoir aussi arrogant soit-il ne pourra étouffer la vérité, nous appelons à une plus large campagne de solidarité avec ces médias pour qu'ils puissent continuer d'accomplir leur mission humanitaire honnête. L'armée russe ouvre le feu pour stopper un destroyer britannique qui a violé la frontière en mer Noire. La flotte de la mer Noire, en coopération avec le service frontalier du FSB, a déjoué une violation de la frontière russe par la marine britannique. Un bombardier Sukhoi-24M ainsi qu'un navire de patrouille ont effectué des tirs de sommation pour arrêter le bâtiment. Des tirs de sommation ont été effectués ce 23 juin par la flotte russe de la mer Noire contre un navire britannique ayant violé la frontière du pays. Le bâtiment en cause qui est entré dans les eaux de la mer Noire le 14 juin 2021 en prévision de manœuvres navales que l'armée ukrainienne entame le 28 juin avec les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN. En collaboration avec le service frontalier russe du FSB, la flotte de la mer Noire a mis fin à une violation de la frontière russe par le destroyer britannique, a déclaré le ministère russe de la Défense aux journalistes. L'OTAN s'engage officiellement contre la Chine. Pour l'OTAN, la Chine représente désormais un défi systématique pour l'ordre mondial, faisant vraisemblablement référence à l'ordre unipolaire totalement dépassé par les événements en cours dans le cadre de la multipolarité. Pékin dénonce de son côté une mentalité de guerre froide du côté occidental. La déclaration adoptée à Bruxelles au siège de l'organisation otanesque place la Chine comme rival du bloc atlantiste juste après la Russie. Cette nouvelle approche, qu'il faut le lire, allait forcément arriver à un moment ou à un autre, tant le concept multipolaire mondial continue de monter en puissance et que des pays comme la Russie et la Chine Il joue un rôle clé et de plus en plus coordonné, et tant l'établissement occidental a du mal, l'établissement, pardon, occidental, a du mal à accepter cette réalité. Néanmoins, cette nouvelle approche désormais officielle confirme que de l'Occident politico-médiatique s'oppose ouvertement au bloc sino-russe et plus généralement à celui des partisans assumés du monde multipolaire. Dans leur communiqué de clôture, les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont donc confirmé que Pékin est leur rival le plus gênant après Moscou. La Chine n'a pas manqué à réagir à la démarche otanesque. Ainsi, la mission chinoise auprès de l'Union européenne a rejeté l'affirmation de l'OTAN selon laquelle la Chine représenterait des défis systématiques, la qualifiant de calomnie visant le développement pacifique de la Chine et de continuation de la mentalité de guerre froide. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin à cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.